Radio kiosque.
Lecture subversive une fois par mois. Radio kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Sainte-Afrique.
Garantie sans propagande.
Je voudrais appuyer sur un truc qui fait mal, la violence. Tu sais, c'est le truc auquel tu comprends rien et qui te fait faire des trucs improbables qui se terminent dans de la souffrance véritable.
Tu aimes ça, la souffrance véritable?
On va commencer par exclure de cet épisode le cas des psychopathes, des sadiques
et des flics. Déjà, la violence, ce n'est pas la faute des jeux vidéo.
Ni du black metal, des films d'horreur, de la pornographie.
Ou des dieux. Hey Bouddha, ouais, décroche de YouPorn là et check si elle là est en ligne, qu'on se fasse un petit call-off. Oh. Un acte violent, c'est de la responsabilité de celui ou celle qui le produit.
C'est aussi un truc qui te prend par surprise
et auquel on a quand même donné des espèces de nuances. Par exemple, mettre un coup de boule à une mamie dans la rue, c'est une agression.
Shooter dans un Yorkshire, c'est de la cruauté.
Et gifler un enfant, c'est de l'éducation.
Mais tu vois bien que même si tu changes de mot, c'est toujours de la violence.
La taloche, de temps en temps, ça remet les idées en place quand on veut pas comprendre. Moi, j'en ai pris quand je...
Quand tu hurles sur quelqu'un pour lui transmettre une information,
t'obtiens un choc traumatique qui engendre un état de sidération.
Ça fait que ton cerveau, il imprime plus rien.
Oui, encore moins qu'avant.
Parce qu'en fait, il sécrète des produits similaires à la morphine et à la kétamine.
Non, c'est pas pour être défoncé, c'est pour protéger ton cœur de la crise cardiaque.
C'est qui, c'est le cœur? Ça va, mon pote? Eh, t'inquiète, mon pote, moi, je te protège.
Ça va arrêter de gueuler dans pas longtemps, là.
Si, c'est la fin. C'est la fin, écoute.
Sans compter qu'à réprimer ses émotions à grands coups de sidération, le cerveau se développe mal et devient moins capable d'empathie et est plus réactif au stress.
Du coup, il se met à produire de la violence plus facilement.
Du coup, il reproduit le schéma sur les autres.
Et au final, ça produit encore plus de gens violents.
Oh, sinon, il y a aussi la violence psychologique.
Par exemple, il y a un truc hyper fréquent, c'est quand tu deviens passif-agressif. C'est quand t'exprimes un truc que t'as pas digéré et que t'as pas réussi à dire, mais que tu fais quand même passer dans un sous-texte agressif sans vraiment préciser de quoi tu parles.
Ouais, bah c'est bon, la violence, c'est pas ma faute. Si des gars me vénèrent, faut leur casser la gueule, c'est la nature.
Remonte le temps et empêche tes parents de se rencontrer. Tu réalises bien que quand tu infliges de la souffrance véritable à ton environnement, c'est pas à cause de la violence en général.
C'est ton choix, puisque c'est toi qui le fais.
Tu vois qui c'est toi? La violence dans ton cerveau, c'est une alarme qui t'indique qu'il y a trop de pression parce que t'as trop de besoins que t'as pas satisfait.
Ok, alors tu commences par me mettre le volume de hurlement à 12 et ensuite on va se mettre à tout insulter. Ensuite on va taper 4 fois avec le couteau sur la table et on va finir avec un lancer d'assiette à travers sa gueule.
Hein, comme ça, bon, on va bien finir par se faire comprendre. Et avec un peu de chance, on va finir par remplir un de nos besoins.
Comment ça, lequel? Je sais pas la question, j'en ai rien à foutre. Action, je te dis des trucs, tu les fais.
La violence, c'est un peu comme si t'avais stocké trop de colère sans jamais vraiment t'en être occupé.
Oui, je sais, ici on parle surtout de violence ordinaire et mentale. La violence, ça peut aussi prendre plein d'autres formes.
Mais j'ai pas le budget pour te faire un long métrage.
La violence, elle fait partie de ta psyché.
En fait, l'idée, c'est d'écouter ce qu'elle dit pour éviter qu'elle se matérialise.
Et pour ça, faut déjà commencer par se connaître et comprendre quels sont ses véritables besoins. Il faut apprendre que ce que tu veux et ce dont tu as besoin, c'est pas forcément pareil.
En fait, quand tu ressens de la violence, c'est juste un signal de ton cerveau qui te dit qu'il y a urgence à devenir bienveillant avec toi-même.
Donc plus t'écoutes ce que te dit vraiment ta violence, et moins tu la pratiques.
Et tout le monde s'en fout.
Ok, je veux un rapport toutes les 20 minutes.
Deux secondes.
Oui.
Ah, c'est la violence.
On a besoin d'un câlin.
Oui, d'accord, mais on lui pète la gueule ou pas?
Et bonjour dans ce Radio Kiosque du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes deux dans les studios. C'est trop la teuf. Bonjour Lila.
Bonjour.
Et donc aujourd'hui, on va lire un texte qui s'appelle « Pas de recette miracle, perspective extrajudiciaire face aux agressions sexuelles ». Donc je reprends mon sérieux. Donc ce texte a été écrit par les meufs de la Caisse de solidarité de Lyon, puis validé par l'ensemble du collectif, à la suite de débats qui ont animé plusieurs collectifs militants à Lyon depuis novembre 2019 sur la question de la gestion des agressions sexuelles, Donc il a d'abord circulé de la main à la main et maintenant il est publié pour le rendre disponible afin qu'il puisse alimenter d'autres réflexions ailleurs. Donc nous, donc je parle au nom des personnes qui ont écrit le texte, hein, nous inscrivons modestement dans une perspective révolutionnaire. Donc cela implique que nous estimons qu'il existe des rapports de domination systémique et qu'il est possible de les renverser ou de radicalement les transformer. Ces rapports systémiques ne nous sont pas extérieurs et la ligne de front est aussi en chacun chacune de nous. Nous faisons partie du monde et le monde fait partie de nous. Nous devons être lucides sur l'état du monde sans que cette lucidité nous mène jamais à la résignation. De nos groupes de partage d'expérience entre meufs, nous retirons le constat que presque toutes, nous avons fait face à des agressions, des abus ou des gestes de prédation. Nos milieux militants ne sont pas exempts de ces dynamiques et nous ne souhaitons pas entretenir l'illusion d'un safe. Cela ne veut pas dire que nous devrions nous accommoder des violences. Donc renforçons les solidarités féministes et ouvrons des espaces d'alliance, diffusons nos réflexes d'autodéfense et refusons d'être assignés au statut de proie.
Destitution et justice transformatrice. Nous pensons sérieusement qu'en plus de faire face à la justice et à la police, en défendant pied à pied ceux et celles qui s'y trouvent confrontés, il nous faut s'attirer à la police et à la justice leur pouvoir d'institution, celui de régler nos conflits. Ce geste de destitution n'est pas de l'ordre de la morale, ce n'est pas mal d'avoir recours à la police, et nous aidons d'ailleurs ceux et celles qui le souhaitent à porter plainte pour des violences policières. Nous pensons qu'il est nécessaire de réfléchir pragmatiquement à comment faire autrement. Car si nous ne travaillons pas à des alternatives crédibles, la seule solution sera toujours de se tourner vers la police. Dans ce pays, quelles sont les options quand quelqu'un vous fait du mal? Appelez la police et voir quelqu'un de l'extérieur impliqué dans le processus ou vous débrouiller par vous-même. Ne rien faire n'est pas une bonne option pour beaucoup de gens. Vous ne devriez pas avoir à choisir uniquement entre vous adresser à l'État ou ne rien faire. Donc c'est Mariam Kaba, citée dans l'article « Tout le monde peut se passer de la police », organisation communautaire pour abolir la police à Chicago, dans la revue Jeff Clack, janvier 2017. Ces positionnements nous rendent attentifs aux expériences de justice communautaire, transformatrices telles qu'elles ont pu avoir lieu dans des communautés kurdes à l'échelle de quartiers à Chicago ou dans des communautés zapatistes. Nous en avions parlé lors de l'organisation d'un séminaire organisé avec d'autres sur la justice sur 3 jours dont le titre était « La justice, la connaître, y faire face, vivre sans ». Dans la discussion atelier « Vivre sans la justice et la police », nous avions abordé l'épineuse question de la gestion des conflits et des violences et discuté des expériences de justice transformatrice, de justice communautaire dans des communautés autonomes au Chiapas, notamment d'un point de vue féministe. Aucune réponse miracle n'en est sortie, ni aucun mode d'emploi à suivre à la lettre. Quelques pistes se sont dégagées, écouter et appuyer la parole de la personne agressée dans un climat de bienveillance et non pas d'enquête, ouvrir des espaces de discussion non mixtes, de soutien et de réparation autour de la personne agressée, confronter l'agresseur à ses faits et le pousser à changer, mais aussi viser à transformer la communauté en pointant du doigt les mécanismes de domination genrée, les ressorts problématiques, et veiller à ce que les féministes ne s'épuisent pas dans ces processus longs et complexes. Reposer la question de la responsabilité collective du genre de rapport qu'on entretient et de comment les transformer en parlant de choses concrètes. Ces pratiques posent tout un tas de questions. Qu'est-ce qu'une communauté? Comment différencier ce qui est de l'ordre du conflit et de ce qui est de l'ordre du tort? Est-ce que la réparation est un objectif atteignable? Quelle place pour la vengeance? Comment des décisions acquièrent-elles une autorité? Elle nous invite en tout cas à adopter une approche pragmatique de responsabilisation collective qui ne fonctionne pas par l'application automatique d'un code de déontologie, d'une loi ou d'une morale. Design, bitch. Yeah. Hope you know you signed it. Night and day, fuck about what time it is. This won't get you high, don't ask me why I'm trying it. Designer bitch. She just want the finer things. Ain't day, every day, give a fuck about what time it is. This won't get you high, so don't you ask me why I'm trying it. Designer bitch. Night and day, every day, give a fuck about what time it is. This won't get you high, so don't ask me why I'm trying it. Straight.
De l'exclusion et de la purification. Et puis, il y a la question de l'exclusion d'un agresseur. Si elle peut être nécessaire pour la victime afin de reprendre pied, de ne pas craindre de le croiser dans les espaces qu'elle fréquente, elle ne nous semble pas être forcément la réponse univoque à appliquer systématiquement. Un des risques qu'elle contient, c'est de faire croire que le problème est réglé parce que la brebis galeuse a été écartée. Avec les autrices de premier pas sur la corde raide, nous souhaitons éviter l'illusion selon laquelle la communauté pourrait se refonder sur une purge salvatrice. La justice d'État fonctionne en partie d'après ce précepte, et pourtant, chacun sait qu'elle n'est qu'un système reproduisant cela même qu'elle dit combattre. Identifiant le déviant, l'inscrivant hors la loi, la société se légitime elle-même, se renforce et se donne bonne conscience. Le recours au cas exemplaire permet à tous ceux qui ne sont pas directement visés par l'accusation de se laver de tout soupçon, notamment en affirmant publiquement leur adhésion au processus. L'effectivité d'un tel recours repose moins sur l'examen intime et collectif des logiques de domination qui contaminent nos rapports que sur la peur d'être incriminé à son tour. Certes, ce procédé a historiquement fait ses preuves, il peut certainement arriver à modifier les comportements. On peut toutefois douter de sa capacité à installer le climat de confiance nécessaire à l'élaboration durable d'autres rapports. C'est à ce point précisément que se révèle toute la complexité du brouillage entre amis, ennemis, à laquelle le féminisme se retrouve sans cesse confronté. Une réelle transformation ne viendra pas de l'adoption d'un code de comportement irréprochable, mais bien de l'attention toujours renouvelée à l'autre et aux signes qu'il ou elle envoie, à la circulation du pouvoir et à la complexité et à la profondeur des relations. Donc extrait de premier pas sur une corde raide disponible sur infokiosque.net. Nous refusons l'innocence comme point de vue et refusons l'idée de la purification d'un milieu. Nous ne supportons pas d'entendre des types nous expliquer à quel point il est violent de côtoyer quelqu'un qui en a déjà agressé une autre. Les dénonciations publiques ont libéré la parole, mais elles ont aussi, parfois, servi à construire des monstres, bien pratiques à mettre en avant pour clamer du même coup sa propre innocence. Nous refusons cette logique qui tendrait à faire croire qu'il suffit de virer quelques anormaux pour préserver notre sécurité. Nous savons que le problème, c'est justement l'anormalité et ses rapports structurels. L'utilisation de la catégorie monstrueuse du violeur sert parfois à dessiner une ligne de partage bien nette entre les hommes bien, qui n'ont rien à se reprocher, et les autres, les violents, les violeurs, ceux qui dépassent le consentement. Or, la réalité est tristement banale. Les agressions et viols sont majoritairement commis dans des situations effroyablement familières. Ils découlent de systèmes de domination quotidien. Ce que nous disons là ne revient pas à normaliser ces situations d'abus, ni à déresponsabiliser la personne qui a dépassé le consentement et les limites d'une autre. Ce ne sont pas des structures qui violent, mais bien des personnes. Cela revient simplement à dire que réfléchir en termes de monstres ne nous permet pas de penser le caractère structurel des rapports merdiques. Nous pensons que c'est bien parce que les rapports que nous décrivons sont systémiques que l'émancipation individuelle ne pourra pas se passer d'émancipation collective.
Thank you.
Safe et sécurisation. La sécurité nous pose problème aussi comme objectif politique. Nous souhaitons tisser de la confiance, se renforcer pour se sentir prête à lutter. Fabriquer des alliances, mais pas sécuriser nos espaces. La politique du safe comme horizon d'élimination du risque ne nous convient pas. Nous percevons l'intérêt de former des communautés, des amitiés, des groupes, nécessairement restreints, où l'on travaille des liens de confiance, qui nous donnent de la force pour lutter. Mais la création de ces espaces de bien-être ne sont pas le but ultime de notre politique. Souvent, l'approche liée à l'identité et au style de vie est séduisante car elle crée l'impression d'être engagée dans une pratique. Cependant, au sein de n'importe quel mouvement politique qui vise à transformer radicalement la société, la pratique ne peut pas uniquement se résumer à créer des espaces au sein desquels des personnes supposées radicales expérimenteraient la sécurité et le soutien. Le mouvement féministe, pour mettre fin à l'oppression sexiste, engage activement ses participantes dans un combat révolutionnaire. Et un combat, c'est rarement safe et agréable. Bell Hooks dans « Ne suis-je pas une femme ?» Plutôt que d'attendre la sécurité qui, in fine, ne dépend pas de nous, nous préférons renforcer nos aptitudes au combat et développer des façons fructueuses d'aborder les conflits politiques. Certaines voudraient non seulement une communauté sans agression, sans cris, sans pleurs, sans insultes, mais en plus si elles pensent bon d'exclure quelqu'une d'un espace parce que quelqu'une d'autre est mal à l'aise. Il ne faut donc plus seulement se protéger des agressions, il faut également se protéger de nos émotions et ne surtout pas les affronter. Donnez-moi de la jouissance et du plaisir, mais oh, surtout, protégez-moi de la gêne et de la colère. Apparemment, certaines émotions ne valent pas la peine d'être ressenties. La sécurité est présentée comme un besoin vital et l'on cherche à créer des bulles hermétiques et aseptisées visant à nous protéger d'un espace straight dans lequel nous serons totalement vulnérables. Vous savez quoi ? Des espaces safe n'existent pas, pas plus que le safe sex ou les personnes safe. Le safe comme risque zéro n'existe pas. Vivre tue, aimer amène éventuellement son lot de souffrance et baiser son lot d'IST et autres mycoses. Vouloir se prémunir de tout risque relationnel est une voie sans issue. Le problème avec la recherche de sécurité, c'est que plus on cherche à contrôler les risques et à s'en prémunir, plus on a peur. C'est là tout le paradoxe. La recherche de sécurité intensifie le sentiment d'insécurité, et après tout, c'est plutôt logique. Si tu te construis un monde parfait, propre et lisse, et prévisible, tu as de grandes chances de péter les plombs si ça ne se passe pas comme prévu. Paranormal tabou, safety is an illusion.
Guess who's back? But you never left. Yes, I did, I rose from the dead. And now I'm here to kill them with flows and some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your crap. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team.
Squally,
Squally, where you at, my J?
I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad.
I'm rolling 10, yeah, up in that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. Them bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, disposed of evidence. Cause nobody bad like us.
Nobody bad like us.
But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns.
I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad.
I'm rolling 10, yeah, up in that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoot.
What else?
Step on the gas, take the back rooms. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the wit, shit, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squally, let me see you brush your something.
I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad.
Up in that squad, that's a wall, that's squaddy, that's the clan, that's the posse, that's them, that's moi.
Et socialisation et politique victimaire. Dans le débat en cours, nous refusons donc que les catégories d'agresseurs et de victimes fonctionnent comme des pôles d'identification indiscutables. Au sein de différents mouvements féministes, nous nous reconnaissons dans un féminisme qui n'exige pas de chacun chacune comme préalable de se percevoir comme une victime. Ce qui nous intéresse, c'est de lutter collectivement contre des systèmes d'oppression, de renforcer nos pratiques de liberté, pas d'être enfermé dans une catégorie sur laquelle s'apitoyer. Donc nous voyons comment il peut être important d'être reconnu comme victime d'une agression, et nous voyons aussi comment il peut être important de pouvoir s'en détacher. Nous, et ce qui nous renvoie strictement aux meufs qui écrivent pour le coup, n'avons pas envie d'être définis par ce que nous avons subi, et encore moins que notre parole ne soit entendue que parce qu'elle se pare de la légitimité de l'étiquette victime. Au même titre, nous nous refusons à assigner à vie l'étiquette d'agresseur à quelqu'un. Ce serait nier les possibilités de transformation radicale dans lesquelles nous croyons. Car oui, nous pensons que quelqu'un qui n'a pas respecté le consentement d'une autre personne peut, s'en rendre compte, travailler dessus, changer de comportement. Il est évident que ces processus sont longs et pas toujours fructueux, mais l'on ne peut pas se résigner à en nier la possibilité. Nous ne cherchons pas à faire de nos souffrances le moteur principal de notre façon de lutter, même si elles en font partie. Nous refusons surtout la perspective de l'impossibilité d'une construction collective face à un ressenti individuel qui aura toujours raison parce qu'il souffre et qu'à ce titre il est inquestionnable et devient argument d'autorité. Nous sommes d'autant plus méfiantes envers cette subjectivation contemporaine qu'elle se déploie aux plus belles heures du néolibéralisme. Donc, la rhétorique de la blessure et du traumatisme pour parler de toute violence dans les milieux queer produit non seulement un devenir victimaire généralisé, mais une atomisation des communautés et des luttes. Jack Judith Halberstam dans Tu me fais violence, la rhétorique néolibérale de la blessure, du danger et du traumatisme, dans Vacarme numéro 72. Il ne s'agit évidemment pas de gommer nos affects ni de nier nos expériences. Nous serons d'autant plus justes que nous parlerons depuis quelque part. Nous croyons en la possibilité du nous, au pari qu'il contient, dont le bouleversement réciproque, intellectuel, émotionnel et incarné des groupes et des individus n'est pas la moindre des choses. Lyon 2019-2020.
D'abord, merci d'avoir posé cette question, ça n'a sans doute pas été facile. Chaque année, en France, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont victimes de viols. Pourtant, on se sent souvent seul face à cette violence et ses conséquences. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis, et si j'insiste là-dessus, c'est parce que pour beaucoup de personnes qui ont vécu des agressions sexuelles ou des viols, elles vont trouver de la force et de l'apaisement dans le collectif. Que ce soit à travers des groupes de parole ou encore en lisant ou en écrivant des témoignages, ça peut être vraiment précieux d'échanger avec d'autres victimes. Ça permet de réaliser qu'on n'est pas un cas isolé, même si chacun, chacune ressent et gère les choses à sa manière. Ça peut aussi aider à trouver du soutien, une écoute ou une compréhension particulière, et pourquoi pas à décider de ce qu'on veut mettre en place pour arriver à se sentir mieux. Et puis ça peut aussi donner du sens à ce qu'on a subi. Ta parole peut aider d'autres personnes. Il y a des groupes de parole dans toutes les grandes villes de France, et pour les trouver, on peut passer par exemple par le 3919, le numéro vert mis en place par le gouvernement pour répondre aux violences faites aux femmes. On peut aussi se renseigner auprès des associations féministes locales ou nationales, comme le planning familial. Côté témoignages, on vous met dans les commentaires les liens vers différents sites qui les rassemblent. Échanger avec des inconnus, en direct ou sur Internet, c'est peut-être pas ton truc, ou alors tu te sens pas encore prêt ou prête pour ça. Et c'est sûr, il n'y a pas de règles ou de normes sur la façon dont on gère la vie après un viol. Par contre, la plupart des personnes te diront qu'en parler est toujours un bon début. En parler à des amis de confiance, à des membres de sa famille, à un ou une psy, pourquoi pas, mais en parler en tout cas. C'est souvent une étape nécessaire pour commencer à analyser ce qui s'est passé, parce que pour le raconter, il faut le penser. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'en parler non plus, l'essentiel c'est de faire les choses à ton rythme. Tu peux bien sûr te laisser le temps de réfléchir aux mots que tu veux mettre sur tes émotions et ton vécu, et d'ailleurs je crois qu'en posant cette question, tu fais déjà un énorme pas. Parler à des personnes formées ou déjà sensibilisées, c'est encore mieux, parce que ça évite les réactions qui peuvent être assez décevantes, à côté de la plaque et parfois même violentes. Comme je te disais, parler, échanger et réaliser qu'on n'est pas responsable, ça permet déjà souvent de faire diminuer les sentiments de honte, de culpabilité ou de dégoût qui peuvent apparaître à la suite d'un viol. Parfois ça suffit pas ou pas tout de suite. Certaines personnes vont avoir besoin de l'aide d'un ou une psy pour surmonter ou simplement vivre avec ce qui leur est arrivé. C'est notamment le cas quand on a ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Un ensemble de symptômes qui vont de la dépression aux reviviscences, donc ça c'est des sortes de flashbacks hyper réalistes qui font revivre le moment du viol, ou encore ça peut être des phobies, difficultés à sortir, à voir des gens, etc. Tu peux même trouver des psys spécialisés dans ce fameux PTSD, n'hésite pas à les consulter. De nombreuses personnes qui ont subi un viol n'osent pas en parler. Elles ont peur de ne pas être prises au sérieux, de ne pas être crues et même d'être jugées. Ça paraît incroyable alors qu'on n'a rien fait de se sentir coupable ou même d'avoir honte. Une personne victime d'un vol, par exemple, ne sera pas du tout dans le même état d'esprit. Et ça, ça s'explique par ce qu'on appelle la culture du viol et que l'autrice Valérie Ray-Robert explique très bien dans son livre « Une culture du viol à la française ». La culture du viol, c'est des idées reçues sur le viol qui vont généralement le banaliser ou le minimiser, excuser les violeurs et culpabiliser les victimes. À cause de ces clichés, on va avoir tendance à demander à une victime de viol comment elle était habillée, comment elle s'est comportée, si elle s'est suffisamment défendue, si elle n'a pas un peu provoqué ce qui lui est arrivé. Je le dis et je le redis, la seule personne responsable d'un viol, c'est le violeur. On n'est jamais, même pas un peu, coupable d'une violence qu'on subit. Peut-être aussi que ton rapport à ton corps a changé, ça peut être une autre piste à explorer. Certaines victimes de viol ont vécu des moments de dissociation où leur esprit, pour se protéger, s'est complètement détaché de ce qui arrivait à leur corps. Et c'est pas toujours simple de les reconnecter après, surtout si on en veut à ce corps qui s'est peut-être bloqué, qui n'a pas pu crier. Cette paralysie qui peut arriver quand on a très peur, c'est ce qu'on appelle la sidération, et c'est un phénomène encore trop mal connu et mal compris. Les psys peuvent aider pour ça aussi, mais ça peut être intéressant de se tourner en parallèle vers des alternatives. Yoga, méditation, sophrologie, ostéopathie, acupuncture, hypnose, les méthodes sont nombreuses pour réapprivoiser son corps et des associations féministes peuvent sans doute t'en recommander. Je sais pas quel est ton parcours, à quand remonte cette agression et ce que t'as déjà pu mettre en place, mais c'est possible qu'on t'ait conseillé de porter plainte. Le viol est un crime et le code pénal prévoit qu'il soit puni de 15 ans de prison. Pour certaines personnes, porter plainte permet d'être reconnues en tant que victimes et confirmer qu'elles ne sont pas coupables de ce qui leur est arrivé, ce qui peut apporter un soulagement. Mais avant de se lancer, si on veut se lancer, il est important d'être bien préparé parce qu'il est parfois très difficile d'être entendu, y compris par la police ou dans le système judiciaire. Au moment du dépôt de plainte, on peut être confronté aux fameuses idées reçues sur le viol. C'est votre petite amie, il ou elle n'a pas pu vous violer. Mais vous l'aviez invité chez vous, est-ce que vous vouliez pas, au fond, qu'il se passe quelque chose? Il y a aussi une ou plusieurs confrontations qui ont lieu entre la personne qui porte plainte et celle qu'elle accuse. Des moments qui peuvent être hyper difficiles et malheureusement pas toujours efficaces. L'énorme majorité des plaintes n'aboutit pas à une condamnation et elles sont même très souvent classées sans suite. Donc si on décide d'y aller, il faut s'y préparer. Mais encore une fois, pour certaines personnes, c'est un moment fort et nécessaire dans le processus de guérison. Tu vois, au final, de nombreuses pistes s'offrent à toi et c'est à toi seul de décider ce que tu veux essayer. Tu pourras toujours changer d'avis ou tenter d'autres options si finalement ça ne te convient pas. Autant que possible, essaye d'être patient, patiente avec toi-même. Guérir, ça peut prendre du temps, mais tu n'es pas seul et tu as sans doute plus de force et de ressources que ce que tu penses.
Donc vous venez d'entendre Sexy Souci, et sinon l'extrait en premier c'était Et tout le monde s'en fout. Voilà, c'était donc le radio kiosque d'automne, ouais, le radiotone en octobre, mal. C'est pas mal. Je vous remercie d'avoir écouté et au mois prochain, salut.
Radio kiosque. Lecture subversive une fois par mois. Radio Kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Sainte-Afrique.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.